Nouakchott, 23h à Tripoli et minuit à Khartoum. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Suite de nos perspectives pour l'année 2015, peut-on rester optimiste pour l'avenir de la Libye? Pour le journaliste Mourad Selami, le pays va sortir de la crise.
Les élèves en Libye continuent à aller dans les écoles. Les marchés libyens continuent à être approvisionnés.
Nous serons au Soudan pour la seconde partie de l'émission.
Au Soudan, il y a une espèce de lassitude qui vient de ces 30 années de dictature.
2015, une année d'élections présidentielles sans surprise au Soudan. Nous entendrons l'analyse de Gérard Prunier. Enfin, l'écrivain Boris Diallo sera l'invité de la page Culture. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. En Gambie, des tirs nourris ont été entendus dans le secteur où se trouve le palais présidentiel à Banjul. C'est ce que signalent les habitants et les diplomates dans la capitale où la situation semblait cependant calme. Pendant la mi-journée, les agences de presse parlent d'un coup d'état manqué contre le président Yahya Jammeh. Au Burundi, de violents affrontements ont opposé ce mardi les forces de l'ordre à un groupe armé non identifié, Michel Joseph.
Ce groupe serait entré au Burundi en provenance de la RDC, indique l'AFP, citant comme source le gouverneur de la province de Cibitoke, Anselme Nsabimana. Les affrontements ont eu lieu dans la commune de Burunda, à 50 km au nord de la capitale Bujumbura, a confirmé le porte-parole de l'armée, le colonel Gaspard Baratouza, sans donner plus de détails. 14 combattants ont été tués et plusieurs ont été arrêtés, d'après les autorités. Selon le gouverneur, le groupe armé, composé de dizaines d'hommes, serait entré au Burundi la nuit dernière. Des habitants parlent d'environ 200 hommes. Des milliers de civils ont fui Bugunda, ont indiqué les responsables locaux.
Attentat suicide devant le Parlement provisoire de la Libye à Tobrouk. 18 personnes souffrent de blessures légères. Selon une source médicale, un député qui a parlé au téléphone avec l'AFP a indiqué, en citant des témoins et faisant état d'enregistrement vidéo, qu'une voiture peinte aux couleurs de l'armée avait percuté le portail arrière de l'hôtel avant d'exploser. La Libye est en proie à de nombreux actes de violence faisant craindre l'éruption d'une guerre totale dans le pays.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Les autorités indonésiennes ont retrouvé plusieurs corps près de l'épave de l'avion d'Air Asia qui s'est abîmé en mer dimanche dans une tempête. Félix Yepasi Zembro.
La télévision locale a montré ce mardi des hélicoptères de sauvetage sortant des corps de la mer de Java à environ 160 km au large de l'île de Bornéo. Les familles des personnes à bord de l'avion ont éclaté en sanglots après avoir vu les premières images des corps qui ne portaient pas de gilet de sauvetage. Aucun passager ou membre de l'équipage n'a été retrouvé vivant. Lors d'une conférence de presse ce mardi à l'aéroport de Surabaya, le président indonésien Joko Widodo s'est adressé aux proches des victimes. Mes sincères condoléances vont aux familles des passagers et de l'équipage. Je compatis à leur peine et je prie pour qu'il leur soit donné le courage et la force de faire face à cette tragédie. Le chef de l'agence indonésienne de recherche et de sauvetage a déclaré ce mardi que seulement 3 corps avaient été retrouvés peu de temps après la découverte de l'épave. Les États-Unis vont envoyer un second navire pour participer aux recherches, a annoncé sur CNN le porte-parole du Pentagone, le contre-amiral John Kirby.
L'opposant russe Alexei Navalny a été arrêté aujourd'hui, peu après 7 juin, à des manifestants. Il est interdit de circulation et a été assigné à résidence. Plus tôt dans la journée, un tribunal de Moscou a jugé Alexei Navalny et son frère Oleg coupables d'escroquerie. Il a condamné l'opposant au président russe Vladimir Poutine à une peine avec sursis de 3 ans et 6 mois de prison, tandis que son frère a écopé de la même peine, mais ferme. Leurs avocats comptent interjeter appel. Les forces irakiennes ont pris aujourd'hui la ville de Doulouya au nord de Bagdad qui était contrôlée en grande partie par le groupe État islamique, précise l'AFP, citant une source militaire. Selon un officier irakien, Doulouya a été complètement libérée. L'offensive a été lancée vendredi à partir de plusieurs axes et les forces irakiennes ont réussi à prendre plusieurs villages au sud de Doulouya avant d'y pénétrer. Vous écoutez VOA Afrique, la suite de nos programmes, c'est avec Claire Morin-Gibou dans Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique et suite de nos perspectives 2015 pour la bande sahélienne. Premier arrêt en Libye qui a vécu une douloureuse année 2014 avec des affrontements meurtriers, des attentats récurrents et un imbroglio politique. La Libye dispose maintenant de deux gouvernements et de deux parlements, l'un à Tripoli et l'autre à Tobrouk. Le pays arrivera-t-il à retrouver son unité ? Mourad Selami, journaliste tunisien spécialisé sur la Libye, lui, reste optimiste.
On ne saurait être qu'optimiste pour la situation libyenne, parce que quoi que disent les observateurs étrangers, la Libye, à mon avis, ne vit pas une véritable guerre civile au sens large du terme, au sens usuel du terme. La Libye actuellement, malgré les combats qui se déroulent par intermittence, il faut le dire, à Benghazi ou dans les environs de Tripoli, les élèves en Libye continuent à aller dans les écoles. Les marchés libyens continuent à être approvisionnés et le transport aérien travaille encore vers certains aéroports en Libye. À mon avis, selon les usages que l'on connaît dans le monde, lorsqu'un pays est en guerre civile, il ne vit pas une telle situation de continuité de la vie sociale en guerre civile.
Est-ce que vous avez néanmoins des inquiétudes pour la Libye, pour la situation sur place aujourd'hui ?
Oui, cela va de soi que j'ai des inquiétudes, parce que le fait même qu'il y ait des combats à Tripoli, dans les environs de Tripoli, sur les frontières tunisiennes ou encore à Benghazi, cela veut dire que quelque chose ne va pas. Mais quel est le risque réel que vit la Libye ? Le risque réel, ce sont les groupes terroristes impliqués avec Daesh d'Irak, impliqués avec Al-Qaïda. Ce sont ces groupes-là qui constituent un véritable danger pour la Libye. Ces groupes-là ne veulent pas que l'État reprennent le dessus. Ils veulent que c'est le chaos plutôt qui domine en Libye. L'enjeu, c'est de rallier les islamistes modérés à la cause de l'état civil. La crainte, c'est la résistance des terroristes à ce processus de paix. Et comme ils sont assez nombreux, et comme la Libye est un large pays, et comme le Sahara libyen n'est pas encore sous contrôle, le risque c'est la prolifération du terrorisme dans ce vaste pays.
Cette prolifération du terrorisme inquiète beaucoup, et la France en particulier. Le Drian laissait entendre qu'il faudrait que la France intervienne, militairement j'entends. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations ?
Je ne pense pas qu'il s'agit d'une intervention militaire directe de la France ou d'un autre pays sur le terrain. Les interventions militaires n'ont jamais résolu des solutions de ce genre. Les Libyens, à mon avis, vont parvenir à restaurer l'État dans les grandes villes libyennes. Il restera alors à épurer ces grandes zones désertiques. Les terroristes sont en train de se replier au sud. C'est un peu à l'image de ce qui s'est passé dans les zones sahariennes entre l'Algérie, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sahara libyen. C'est cette zone-là qui est hors contrôle. L'armée française n'est pas parvenue à les déloger de là, même après son intervention au Mali. Donc je ne pense pas qu'il s'agit d'une intervention militaire directe de la France ou d'un quelconque autre pays. Il s'agit plutôt de mettre à niveau toutes ces régions-là, de faire intervenir la société civile de ces gens-là. C'est une lutte citoyenne, quotidienne, pour éradiquer le terrorisme. La protection militaire ne saurait qu'aider les populations locales à se protéger contre le terrorisme en offrant de l'emploi, en offrant de l'encadrement sociétal à ces populations-là. On parviendra sûrement à leur éviter l'emprise du terrorisme.
Le journaliste Mourad Selami. La seconde partie de notre émission est consacrée au Soudan. Les élections présidentielles auront lieu en avril 2015 et Omar el-Béchir a fait part de son intention de se présenter une nouvelle fois alors qu'il est au pouvoir depuis 25 ans et qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre présumés au Darfour. Nous avons joint Gérard Prunier, ancien chercheur pour le CNRS et spécialiste du Soudan, et nous lui avons demandé s'il était encore possible d'avoir des perspectives pour le Soudan l'année prochaine.
Oh, il y en a, mais elles ne sont pas bonnes du tout. Le pays est dans une crise profonde à tous les niveaux, que ce soit économique, politique ou militaire. On voit mal comment les choses pourraient progresser autrement que de manière assez violente.
Omar el-Béchir a annoncé son intention de se représenter. Va-t-on vers des élections sans aucune surprise ?
Oh oui, aucune surprise, il sera réélu avec une confortable majorité, parce qu'il y a toutes les chances qu'on ait exactement le même trucage que ce qu'on a eu en 2010. Le régime est très apte à le faire et dispose d'excellents moyens pour y parvenir.
Est-ce que c'est justement en prévision de ce calendrier électoral que le gouvernement soudanais a accentué la répression contre les partis de l'opposition à la fin de l'année 2014 ?
Oui, sans aucun doute. Et l'arrestation de personnes respectées... L'opposition soudanaise est loin d'être exempte de blâme. Donc on a ciblé surtout les gens qui sont respectés et respectables, comme M. Amin Maki Medani ou M. Farouk Abou Issa, et on les a arrêtés. Sans plus, sont des hommes âgés parce qu'on veut les faire taire et peut-être même les tuer, étant donné que notamment Farouk Abou Issa n'a plus accès à ses médicaments et que c'est un homme qui est sérieusement malade, notamment au niveau diabète, hypertension, etc. L'intention est quasiment meurtrière. Et il s'agit effectivement d'empêcher toute manifestation pour éviter que ne se renouvellent les événements de septembre, quand il y avait eu une insurrection qui avait fait 500 ou 600 morts. Là, il s'agit que les élections se déroulent dans le calme et la tranquillité.
Que peut-on espérer pour que la situation change ou comment la situation pourrait-elle changer pour le Soudan ?
Oh, pratiquement uniquement par la violence. Le gouvernement est solidement enraciné, il a d'excellents organes de sécurité, il a une administration assez solide, il n'y a aucune espèce de démocratie sinon une pantalonnade permanente qui présente des éléments démocratiques comme ces élections en carton-pâte qui sont prévues pour l'année prochaine. Des partis existent, mais dès que quelqu'un dans un parti politique veut faire ou dire quoi que ce soit qui sorte de ce qui est toléré par le pouvoir, il se retrouve arrêté, sa famille se retrouve persécutée, ses amis perdent leur travail. Donc la mainmise du pouvoir est très forte. Son assise populaire est au contraire très faible. Donc on a tous les éléments réunis pour voir des bouleversements. Ce qu'il y a, c'est qu'au Soudan, il y a une espèce de lassitude qui vient de ces 30 années de dictature. Et d'autant plus qu'un des éléments de la dictature, c'est un discours de type islamiste. Or, dans la plupart des pays où il y a eu des mouvements politiques importants dans le monde arabe, les islamistes étaient au contraire contre le pouvoir. C'était des dictatures laïques comme M. Ben Ali en Tunisie ou M. Moubarak en Égypte. Là, non, il y a une sorte de fausse conscience qui a été intégrée dans le discours politique et qui désarme toute la frange islamiste qui autrement serait tentée mais qui maintenant a peur de perdre plus qu'elle ne gagnerait à un changement. Donc, ça laisse la population de l'opposition séculière, laïque, seule devant un régime surarmé, suréquipé et qui n'hésite pas à tirer, ça on le sait.
Le consultant et ancien chercheur pour le CNRS, spécialiste du Soudan, Gérard Prunier. nous sommes en Mauritanie aujourd'hui pour notre page culture. Écrivain et journaliste, Boris Diallo est originaire du sud du pays. Il a beaucoup écrit sur l'histoire et la culture des Peuls de Mauritanie. Mais le directeur du festival littéraire Traversée Mauritanide s'inquiète du fait que les jeunes lisent de moins en moins. Boris Diallo.
Pour moi, l'écriture, c'est comme disait Ampateba, c'est des piquets qu'on place. Vous avez raison de le dire, aujourd'hui, les générations ne lisent pas beaucoup, les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à la lecture, d'où le fait d'essayer de poser ces traditions, des jalons par-ci par-là, et montrer ça, transmettre ça à travers l'écriture. Parce que l'oralité a des limites. Aujourd'hui, par exemple, la plupart de nos trios, la plupart de nos hommes ou de nos personnes mémoire, comme on dit, sont en voie de disparition, beaucoup sont partis. Donc si ces personnes-là partent et qu'il n'y a pas de legs particuliers, ce sont des traditions qui vont disparaître. Je suis directeur d'un festival qui s'appelle Traversée Mauritanide. C'est un festival littéraire qui réunit chaque année entre 10 et 15 écrivains que nous faisons venir de divers pays, France, Europe. C'est des ouvertures que nous essayons de faire. Alors ces écrivains, quand nous les amenons, c'est pour les amener dans les écoles, rencontrer les élèves afin d'inciter les élèves à s'intéresser à la lecture. Autour engagé, je ne sais pas, on a l'habitude de dire à auteur engagé, c'est... Non, moi je pense que tout auteur, suivant son activité ou ce qu'il fait, c'est une forme d'engagement. L'engagement c'est quoi? C'est pas forcément prendre un fusil, c'est pas forcément prendre des mots pour vilipender, c'est cela. Mais même le fait d'essayer de participer à la préservation de sa culture, de son identité, c'est un engagement, c'est une autre forme d'engagement parce que ça permet de sauver une culture à disparition. Et lorsqu'on sauve une culture, c'est comme si on avait sauvé un humain, c'est comme si on avait sauvé une personne d'injustice, de privation, etc. Parce qu'on nourrit cette personne, mais en nourrissant cette personne-là, on marque un engagement particulier.
Le journaliste et écrivain Boris Diallo. Celle Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, ici à Kabar. À la technique, Nick Ivanov. Au micro, Claire Morin-Gibour. Nous nous quittons en musique avec Pedro Kouyaté et son Waliden. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Takana do maloba na siku nimwakele bana siku ina me. Bakari jang, ok mi se ude. Koche ya ye unu ye. Aramani ya ye wati ye. Mami ula dosula. Yula sabura pena. Mami ma ula dosula. Sabu ni bone he noro gola.
Douzoula. Kateri misomoiri. Kemaliso kunya kunyandungile tumu. Kupama fata koma sabama jatro matrilanya.